L'FM la plus musicale le matin.
Transistor.
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 La journée de la radio fait son grand retour sur Transistor.
Transistor.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor, en direct toute la journée.
Vous appelez et vous raflez toutes les 10 minutes le double album de Serge Gainsbourg.
Que vous soyez partisan des ondes ou...
Est-ce que vous sentez les ondes? FM la plus musicale le matin.
Transistor.
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 La journée de la radio fait son grand retour sur Transistor.
Transistor.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor, en direct toute la journée.
Vous appelez et vous raflez toutes les 10 minutes le double album de Serge Gainsbourg.
Que vous soyez partisan des ondes ou...
Est-ce que vous sentez les ondes?
Partisan du podcast.
Elles sont là, elles sont partout.
Oh non, pas ça.
Oh, elles sont dans les campagnes, dans les villes, elles sont sur les réseaux sociaux.
Des tables rondes, des créations, des fictions. C'est dans ton poste toute la journée sur Transistor.
La meilleure émission que j'ai jamais faite.
Les deux là au fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Alors je reprends.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les...
Transistor.
T'es plutôt FM ou podcast?
Oh, ça dépend des jours.
Eh bien, podcasté maintenant.
Pas mal, non?
C'est Transistor.
Et vous écoutez bien le 7h, 19h sur Transistor. Nous sommes le 13 avril et c'est la journée de la radio.
À part ton émission que j'ai pas vue d'ailleurs. Hein, t'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi?
Transistor.
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 On a besoin de libérer un peu
la radio
pour que
le podcast
fonctionne. Et c'est pas de l'idéologie.
Ce truc fasciste, j'ai envie de vomir.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor.
Des tables rondes, des créations, des fictions. C'est dans ton poste toute la journée sur Transistor.
Bonjour à vous qui nous écoutez pour cette toute première table ronde de la journée de la radio 2021. Il est 10h sur Transistor et nous avons l'immense plaisir de recevoir sur nos ondes Juliette Volclair, chercheuse indépendante et productrice radio, et Sylvain Gire, cofondateur et responsable éditorial d'Arte Radio. Vous nous entendez bien ?
Juliette Volclair, bonjour, vous êtes en direct depuis chez vous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, super. Bonjour.
Je vous entends, est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien.
Super.
Bonjour Sylvain Gire, tout fonctionne aussi de votre côté? Sylvain Gire? Allô?
Moi, je n'entends personne et je suis dans un très agréable vide internetiste.
Ah, Sylvain, il faut peut-être que tu remettes le son que tu as baissé.
C'est fait.
De Nicolas, la remise.
C'est fait, Juliette. Non, mais j'ai l'air comme ça, mais... Alors, je suis toujours en régie. Il faut que j'aille en studio ou non, je ne bouge pas.
Non, on est bien en régie. Moi, j'entends tout le monde.
On est bien en régie.
Ouais.
Si vous nous entendez bien et qu'on vous entend bien également, on va pouvoir commencer.
Absolument.
Très bien. Eh bien, nous allons discuter aujourd'hui de cette question. Les podcasts peuvent-ils être associés à de nouvelles radios libres? Car ces dernières années, le monde médiatique s'est emballé autour de ce format d'écoute qu'est le podcast, autour de cette infinité de contenus disponibles sur les grandes plateformes d'écoute, avec des podcasts au ton et aux thématiques multiples. Quand on parle de podcast, on pense ainsi à Arte Radio, à Binge Audio, à Louis Media, à Nouvelles Écoutes. Mais finalement, qu'est-ce qu'on appelle podcast aujourd'hui? On vous remercie, vous deux, d'avoir répondu présent pour nous apporter votre éclairage sur la question. Nous avons déjà eu l'honneur de vous accueillir pour la JDR de Transistor, dans des conditions différentes, bien sûr, mais c'est une joie pour nous de discuter avec vous aujourd'hui.
Alors, vous avez tous deux une approche critique du son et pour nos auditeurs et nos auditrices, on va vous présenter un petit peu. Juliette, en tant que chercheuse indépendante et critique sonore, et Sylvain, en tant que chef éditorialiste à Arte Radio, cette approche critique du son, c'est une des raisons pour laquelle nous avions choisi d'aborder cette thématique avec vous. Juliette Volclair, vous êtes donc chercheuse dans le domaine sonore. Vous avez écrit deux ouvrages, Le son comme arme en 2011 et Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore en 2017 aux éditions La Découverte. Vous prenez une écoute critique du son et vous avez collaboré à la revue en ligne Synthone qui s'est arrêtée en 2019. Vous avez également été productrice de l'émission L'Intempestive sur Fréquence Paris Pluriel et Radio Galère. Et plus récemment, vous avez participé à Radio Renversée. Ce ne sont là que quelques exemples de productions radiophoniques que vous avez réalisées, puisque vous avez plusieurs créations sonores et documentaires à votre actif. Vous avez notamment participé au collectif Les Sirènes, avec des interventions artistiques autour de la critique sociale du son et à l'écoute buissonnière.
Sylvain Gire, vous êtes quant à vous journaliste, auteur et producteur de radio. Vous dites dans des interviews avoir commencé la radio par hasard, d'abord avec Jean Lebrun à Culture Matin sur France Culture, puis chez Arte. En 1994, vous êtes ainsi devenu rédacteur en chef d'Arte Magazine. Vous êtes en particulier considéré comme un pionnier du podcast en France, car en 2002, avec Christophe Rau, vous avez cofondé Arte Radio, la web radio d'Arte, à une période où la majorité des foyers français n'ont pas encore accès à Internet, et encore moins au haut débit. Arte Radio devient alors la première plateforme française de podcast, avec des podcasts à télécharger librement sur le site d'Arte Radio. Site qui est d'ailleurs sous contrat Collectif Common et qui propose dès 2002 des créations audio sans musique et sans commentaires. Vous êtes désormais responsable éditorial d'Arte Radio et continuez ainsi de jouer un rôle clé dans le fonctionnement d'Arte Radio et de ses créations sonores. On est donc particulièrement heureuse de vous accueillir une fois de plus sur Transistor pour une table ronde consacrée au podcast et à la radio.
Alors, si vous le voulez
bien... Merci beaucoup.
Merci.
Je suis ravie de revenir à Lyon, même virtuellement, pour Transistor.
Alors, si vous êtes ravie, on a une première question pour vous deux. C'est une question qui est assez simple, mais finalement essentielle pour commencer à discuter autour de cette thématique. Peut-être d'abord Juliette Volclair et ensuite Sylvain Gire. Pourquoi un tel enthousiasme pour les podcasts ces dernières années en France, alors que finalement il y avait déjà des web radios et des radios indépendantes qui permettaient une très grande liberté de ton et de contenu ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est un enchevêtrement de causes. Certaines qui sont louables, d'autres qui sont... qui le sont moins, on va dire. Parmi les bonnes raisons, il y a notamment la démocratisation des outils de captation et de mise en ligne, également du son. Ça existait déjà avant, mais disons que ça ne venait pas spontanément à nous, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment faire quand même un petit effort d'auto-formation. Il me semble que tout ça, c'est... Tout le trajet, en fait, depuis l'écoute et la fabrication du son, c'est énormément facilité, en fait, depuis un certain nombre d'années. Les raisons qui sont moins louables, c'est qu'il y a une montée en puissance depuis, on va dire, une quinzaine d'années du marketing audio, dans tous les sens du terme. C'est un domaine très vaste, donc je ne vais pas forcément m'étendre très très longuement dessus. Mais pour moi, on est rentré au début du XXIe siècle dans une phase sonore du capitalisme. C'est-à-dire, c'est pas qu'il était sourd ou muet avant, loin s'en faut. Mais en tout cas, le son est devenu un objet désirable dans les univers capitalistes. Et du coup, un objet également publicitaire et un objet autour duquel il a fallu investir de l'argent, faire de la promotion, etc. Et les choses sont assez indémêlables aujourd'hui. Et dans ce qu'on nomme podcast, il y a des choses extrêmement différentes. Il y a ce que je nommerais du podcast industriel qui relève, lui, de ce marketing audio, mais qui prend une autre forme, qui prend une forme d'émission. Et il y a des podcasts indépendants qui, eux, lui préexistent très largement. Le podcast indépendant, vous avez parlé de la naissance d'Arte Radio en 2002. On était quand même un peu connectés. Je crois que la date de connexion en France, c'est plutôt 1999, C'est là où l'Internet a commencé à devenir assez massivement disponible en France. Et antérieurement, à Arte Radio, il y a eu quelque chose ici ou là, mais pas... Enfin, si, dans le domaine de la création sonore, mais rien de très coordonné. Mais en tout cas, autour de ces années-là, milieu des années 2005, on va dire, il y a eu une très forte émergence, en fait, de plein de podcasts très différents, de podcasts indépendants, qui, pour certains, d'ailleurs, perdurent aujourd'hui, pour d'autres, se sont transformés.
Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Juliette. Enfin, pas surtout, Juliette, je crois que tu oublies un élément quand même fondamental qui s'appelle l'Internet. C'est-à-dire la première chose qui s'est passée ces dernières années, c'est effectivement l'arrivée et l'expansion de l'Internet. Et disons que pour une jeune génération, il est naturel de s'exprimer en ligne plutôt que de faire un fanzine sur papier, comme on a pu faire dans les années 80, ou même de s'adresser à sa radio associative locale. Donc c'est sûr que le podcast bénéficie quand même avant tout de cette prime à la nouveauté, à l'Internet, à la souplesse et effectivement à la démocratisation des outils de production. Maintenant, le capitalisme s'empare de tout ce qu'il touche, de tout ce qui émerge. Le capitalisme et le marketing jouent la carte du féminisme, ils jouent la carte de l'antiracisme, ils vont évidemment jouer la carte du podcast, de la même façon que la radio a joué aussi, qu'à côté des radios associatives, on a les radios commerciales depuis les origines. Là où je suis tout à fait d'accord avec Juliette, c'est qu'il y a depuis, mais moi je dirais depuis 5-6 ans, enfin depuis l'émergence des studios privés de podcast, une prime effectivement accordée par les médias et le business en général au podcast, une prime dont n'ont jamais bénéficié les radios libres. Après, il faudrait s'entendre sur ce qu'est une radio libre. Disons qu'on va parler plutôt peut-être de radio associative, et c'est vrai que... Et même à l'intérieur du podcast, on peut dire que si on fait une revue de presse, des articles, le podcast s'inscrit dans une tendance à la start-up nation avec un enjeu qui est de gagner une promesse, qui est qu'on va y gagner de l'argent. Les marques vont y gagner de la notoriété et des parts de marché, et les jeunes gens vont devenir célèbres et vont devenir un peu l'équivalent des youtubeurs ou des influenceurs pour l'audio. Ça, c'est la promesse que nous vendent les médias libéraux, enfin néolibéraux, et on va dire un certain écosystème du podcast. C'est vrai que c'est une promesse dont n'ont jamais bénéficié. En général, quand on se lance dans la radio associative, on ne le fait pas pour de l'argent.
Oui, et justement,
en parlant de... Je suis d'accord avec une partie de ce que dit Juliette, mais...
Oui, désolé de vous couper. En parlant justement du marketing et de la commercialisation du modèle du podcast, on peut écouter un premier extrait de l'interview d'Arthur Perticos, cofondateur de Magellan, qui explique justement comment la production de podcast peut devenir un métier à part entière aujourd'hui qui rémunère bien les producteurs.
Le marché du podcast, c'est un marché qui est très 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 récent, même si les gens écoutent des contenus de type podcast depuis près de 20 ans, je pense. Et on est au début d'une nouvelle ère. Et cette ère, elle va viser à faire en sorte que les gens puissent gagner leur vie de la création de contenu. Donc le futur du podcast, c'est à quel point on va être en capacité, alors nous, d'autres, peut-être encore des gens qui ne sont même pas lancés dans ce domaine-ci, de pouvoir trouver une place qui permet aux talents de gagner leur vie en créant des contenus, aux entreprises de gagner leur vie en proposant des contenus, aux plateformes comme la nôtre, de pouvoir vivre de ce que l'on fait. Et c'est, je pense, le plus gros challenge de ce domaine-ci. Et par ailleurs, peut-être que, à l'instar d'un domaine comme celui de YouTube et des vidéos en ligne, peut-être que tout restera toujours gratuit et qu'au contraire, c'est la publicité qui va permettre de monétiser le travail des talents. Mais on voit bien que plus les talents sont en capacité de vivre de leur création, plus le niveau augmente. C'est le cas sur YouTube, c'est le cas sur Twitch. Ce sera probablement, à notre sens, le cas sur le podcast. Mon métier en trois mots, créativité, capacité de projection et résilience.
Donc voilà, on entend bien les trois mots-clés qui correspondent au modèle de Magellan, la plateforme de podcast créée par Arthur Perticos et Mathieu Gallet. Quelles sont vos réactions?
Il y a six mots d'ailleurs, il n'y a pas trois mots. Mais bon.
Comment?
Il y a six mots, pas trois.
Six mots en effet, trois slogans. Quelles sont vos réactions, Juliette Beauclair, Sylvain Gire, sur ce qu'on vient d'entendre, sur le modèle du podcast, le rapport à la publicité et aux sponsors?
Comme Sylvain, ça me fait rire parce que voilà, c'est un discours publicitaire qui tient sur un certain type de podcast. Après, je crois qu'il oublie assez largement quand il parle de la lutte justement qui est très actuelle de tous les auteurs et autrices dans le domaine du son comme dans d'autres, dans celui de la BD, la littérature jeunesse, de la littérature tout court, dans absolument tous les domaines, les auteurs et autrices sont vent debout justement parce que ce sont les seules personnes dans tous ces domaines qui ne vivent pas généralement des productions. C'est voilà, le modèle d'Arte Radio est très rare puisqu'il y a eu une volonté dès le départ de reconnaître le travail des auteurs et autrices comme un métier déjà et de le rémunérer. Mais on va dire que c'est un modèle extrêmement rare aujourd'hui dans les très gros studios de podcast. La meilleure manière de gagner sa vie en faisant du podcast, c'est en faisant du podcast de marque, ce qui est un autre terme pour publicité, en fait, puisque une marque paye le studio pour produire une émission, un podcast, qui ressemblerait à un podcast, mais qui, en fait, est tout à la gloire de cette société. Donc c'est du native advertising, c'est un modèle qu'appliquent des grands médias, de la presse notamment écrite aussi d'ailleurs comme le New York Times ou d'autres depuis bien longtemps, et voilà, et c'est un modèle qui se répand dans le podcast aujourd'hui. Après, si moi je fais partie notamment d'une assemblée d'artisans et d'artisanes radiophoniques et sonores qui s'appelle les Sons Fédérés, dans laquelle on fait un état des lieux de nos conditions de vie, de nos revenus, etc. Et alors, on n'est absolument pas dans ce que ce monsieur a décrit. Tout le monde est dans la précarité. Ce sont des précarités extrêmement variées. Il y en a certains et certaines qui peuvent avoir un CDI parfois, mais la plupart du temps, ce sont des piges, c'est du CDD, c'est de l'intermittence qu'il faut galérer pour renouveler, c'est des notes d'auteurs, d'autrices très ponctuelles, enfin voilà, c'est... Non, on n'est pas en train de... Est-ce que l'audio va devenir la nouvelle voie pour gagner sa vie ? J'y crois pas une seconde, à moins que ce soit de l'audio publicitaire.
Enfin... Je ne vais pas trouver des slogans marketing aussi beaux que ceux de notre ami Arthur de Magellan, mais c'est vrai qu'Arte Radio, au départ, c'était l'idée que c'était la maison des auteurs, c'était de faire émerger des auteurs. On a toujours mis le nom des auteurs en avant dans ce qu'on faisait, c'est un premier point. Et on a décidé assez tôt de les rémunérer plutôt bien, en tout cas par rapport à ce qui se proposait ailleurs sur les radios professionnelles. Et on continue à essayer de rémunérer les gens correctement. Et là, on vient de re-signer un accord avec la SCAM pour leurs droits d'auteur. Juliette, je pense que tu as raison et tort. Évidemment que c'est pas... Il y a quand même un développement. Il y a des gens qui, soudain, gagnent difficilement leur vie. Mais comme d'autres journalistes précaires, comme d'autres auteurs, tu as raison de faire allusion à la lutte des auteurs, notamment autour du rapport Racine, qui a été commandé par le gouvernement et enterré immédiatement, qui faisait des propositions très fortes. L'auteur, c'est celui qui gagne moins dans la chaîne. Notamment l'auteur de livres, l'auteur de bandes dessinées, c'est vraiment celui qui apporte l'essentiel du contenu et qui en touche le moins de rétribution. Maintenant, il faut avouer qu'il y a cet écosystème du podcast qui commence à toucher la radio, puisqu'il y a des gens qui démarrent dans le podcast et qui arrivent à faire des documentaires sur France Culture, et vice-versa. Il y a des noms qui émergent, des personnalités qui alternent effectivement les podcasts de marque et les podcasts d'auteurs, les podcasts plus personnels. Oui, il y a quand même cette mini-économie qui émerge. Oui. C'est vrai qu'il y a une espèce de promesse un peu illusoire, mais exactement comme celle de YouTube, et il faudrait... cette promesse que n'importe qui va s'exprimer en ligne et va devenir un auteur, une star, une marque et gagner beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et il faut tout de suite remarquer que cette promesse, elle est loin d'être entièrement tenue. Mais enfin, elle existe. On n'a jamais autant parlé d'audio, on n'a jamais autant parlé de sonore, on n'a jamais autant trouvé de débouchés pour faire du son. C'est-à-dire que les gens qui faisaient du son avant... peuvent quand même se réjouir de l'explosion du podcast.
Oui, mais tu vois, par exemple, le YouTube, c'est un modèle entièrement fondé sur la publicité et du coup entièrement fondé sur la starification. Et du coup, pour moi, derrière le discours de les auteurs et autrices vont enfin pouvoir vivre de ça, en réalité, ce n'est pas ça le véritable objet. Le véritable objet, c'est de pousser le modèle publicitaire et de dire on va enfin pouvoir faire de la publicité avec du son. Et d'ailleurs, il y a tout un discours concomitant qui se tient sur le fait que la publicité... Moi, j'entendais ça, en fait, sur le cinéma quand j'étais petite. La publicité au cinéma avant les films est très bien reçue, elle est très acceptée par rapport à la publicité à la télévision. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'entends la même chose, mais sur la publicité dans les podcasts. Il y a tout un tas d'études qui sortent, qui disent la publicité est super bien acceptée dans les podcasts. D'ailleurs, si c'est la voix de la personne qui produit le podcast, qui peut elle-même faire une publicité un peu personnalisée, ça marche encore mieux. Et donc, pour moi, je suis très suspicieuse, je termine juste, Sylvain, je suis très suspicieuse de ce discours disant qui semble être un discours de défense des auteurs et des autrices, parce que en fait tout indique le contraire en fait. Je parle pas seulement des managers, hein, je parle des gens justement au plus haut niveau de l'État qui ont enterré le rapport Racine, qui font tout, basculer tous les auteurs et les autrices dans un nouveau régime de gestion de leur cotisation sociale, mais qui est une aberration monstrueuse. Enfin, tous les signes sont contraires, mais derrière, pour moi, cette promotion de l'auteur et autrice, il y a en réalité la promotion de la publicité dans le domaine du son et de ce modèle publicitaire comme étant le seul viable, ce qui pour moi déjà est un danger en termes de contenu. Et en plus, ce qui est faux, il y a toujours des alternatives, contrairement à ce que disait Margaret Thatcher, et ces alternatives, elles sont à construire, et il y a énormément d'idées qui sont absolument partout, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on pourrait vivre, oui, effectivement, du son, mais en refondant les choses autrement.
Et justement...
Alors, il y a d'autres...
Pardon. Bon. Allez-y, si vous voulez réagir.
Non, allez-y.
Justement... À propos de ce lien entre la publicité et le son, on avait un extrait à vous faire écouter que Juliette Volclair, vous nous avez proposé. Il s'agit de La décharge mentale, donc diffusée sur Jet FM des détricoteuses en avril 2019. C'est la première partie du son que vous nous avez envoyé. Et on se disait que ça faisait un peu écho à cette invasion de la sphère auditive avec justement cet écho à la publicité qui peut exister, mais en transformant justement des sons et des phrases qui pourraient apparaître comme des slogans de pub en une création sonore et en montrant justement qu'en prenant le temps de se poser, de s'installer, vous allez voir à quoi je fais référence en écoutant l'audio pour les auditeurs, en prenant le temps de s'installer et de changer de rythme sonore, marquer la distinction entre un contenu de création sonore et un contenu de podcast qui s'apparenterait à simplement de la publicité. On vous laisse écouter.
Vous avez le pouvoir de vous décharger.
Exigez plus, chargez-vous moins.
Objectif été, un cerveau déchargé.
Déchargez-vous.
Un mode de vie zéro charge.
Entrez dans la décharge mentale.
Oh, mais c'est quoi ça? Ça a l'air bien. Bon, allez, moi, 5 minutes. Allez, je vais voir.
Bienvenue dans la décharge mentale. Je m'appelle Monique84.
Salut Monique.
Réglez votre siège de façon à ce que votre cerveau soit dans le cercle sur l'écran.
Ok.
Non, plus haut.
Oui.
Un peu plus bas. Un poil moins à droite.
C'est encore plus longtemps là comme ça.
Détendez-vous et suivez nos instructions. Encore plus à gauche.
C'est relou là.
Parfait. Détendez-vous. Et sortez votre carte bleue. Phase 1. Démarrage. Nous allons maintenant mesurer votre degré d'aliénation, soumission, domination, réflexion, action, réaction, dépression de votre organisation domestique.
Attends, c'est bizarre quand même.
Diagnostic en cours. Veuillez patienter. Résultat. L'espace disponible de votre cerveau est de 3%.
Ah bon ?
Vous avez atteint le degré critique de charge mentale.
Oh, mais en fait, ça va pas du tout. Oh, je me disais aussi.
Phase 2. Décharge. Parlez dans le micro qui se situe en dessous de l'écran.
Oh, c'est quoi ça encore ?
Allez-y, déchargez-vous.
Juliette Volclair, peut-être, puis Sylvain Gir, une réaction. Est-ce que, Est-ce que ce son ferait écho à cette transformation possible du contenu et au fait, Juliette, par exemple, que vous disiez dans une interview sur l'audioblog d'Arte Radio que le son n'est pas bon ou mauvais en soi, mais qui cela dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. Et là, on a un peu l'impression d'avoir une reprise de slogan, mais pour justement de la création sonore.
Oui, ben là, c'est en fait les Détricoteuses, c'est un collectif féministe qui fait une émission donc sur la radio associative nantaise, enfin de Saint-Herblain pour préciser, JTFM. Et en effet, en fait, elles utilisent les codes d'une partie de l'audio bien insérée dans le capitalisme pour les détourner, pour les parodier. Et elles le font super bien de manière. Enfin, c'est une petite pièce qui dure 4 minutes en tout et elle est vraiment très plaisante à écouter. Elle est vraiment super. Et en fait, pour moi, ça évoque autre chose. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais au départ sur le fait qu'on est rentré dans une phase où le capitalisme s'est avisé de l'existence du son. Ça rentre plus généralement dans ce que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance. Dans un ouvrage qu'elle a fait paraître il y a 2 ans et qui a été traduit l'année dernière aux éditions Ulma en français. Et le capitalisme de surveillance, justement, c'est une prédation. En fait, elle le définit comme une extraction de l'ensemble de l'expérience humaine sous forme de données. Les deux fers de lance du capitalisme de surveillance, ce sont Google et Facebook, sans surprise. Mais en réalité, ce qui se passe aussi avec le fait qu'il y ait un tel engouement autour du son et du podcast, à mon sens, c'est pas seulement l'écoute, malheureusement, même si ça, je me réjouis que beaucoup de personnes en fait découvrent le son et je les vois en fait évoluer même dans leur rapport à ce qu'elles vont écouter au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'elles vont écouter des choses très mainstream au départ, et puis au fur et à mesure, leur écoute se forme, et elles vont aller en fait vers d'autres types d'émissions, et donc vers d'autres types de producteurs, productrices. Mais dans le domaine de l'audio, pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour le son aussi? C'est parce qu'il y a une possibilité désormais, à travers des plateformes comme Spotify, comme d'autres, toutes les plateformes qui existent, Ocha, l'ensemble, de quantifier l'écoute, ce qui est très nouveau par rapport, on va dire, aux mesures de quantification extrêmement artisanales que représente le simple comptage du nombre de personnes qui écoutent telle ou telle radio à tel ou tel moment. Et la quantification précise pardon, de l'écoute, de quand est-ce qu'on prend le son, quand est-ce qu'on accélère, quand est-ce qu'on saute un passage, quand est-ce qu'on lâche massivement l'écoute, etc. Ça, c'est très nouveau. Et ça permet de, justement, comme dit Zuboff, de transformer en données qui vont être stockées sur des serveurs ad vitam aeternam notre rapport à l'écoute. L'objectif, en fait, de cette extraction de données par le capitalisme de surveillance, c'est un objectif, encore une fois, publicitaire, en fait. C'est de vendre de la prédiction de comportement et donc de vendre des espaces publicitaires qui vont avoir le plus d'impact possible sur la personne parce que elle sera saisie au moment où elle sera la plus réceptive au son. Donc voilà, je laisse la parole à Sylvain.
Non, Juliette a raison de nous alerter sur toutes ces nouvelles formes et cette obsession des marchands qui s'emparent du podcast, mais comme ils sont emparés de tout le reste. Hein, l'invention de l'imprimerie n'est pas responsable de ce que va en faire le capitalisme et le goût du profit. Mais effectivement, il y a tout cet enjeu sur les data. Moi, j'ai eu des réunions avec les gens de Magellan qu'on a entendu tout à l'heure, où j'ai entendu des choses absolument ahurissantes sur leur volonté de pouvoir savoir à chaque seconde la réaction de l'auditeur, quand est-ce qu'il s'arrête, et d'orienter notamment l'écriture de fiction en fonction des réactions en direct à chaque instant des auditeurs. Donc vraiment une vision à peu près apocalyptique de ce que peut être la création ou la culture. Mais en dehors de ça, pour essayer d'être un peu concret, le fait que l'écoute et l'écoute du podcast soit quand même quelque chose d'assez neuf dans une adresse, dans une intimité avec l'auditeur, fait qu'à mon avis, les stratégies se font d'une façon un peu plus complexe que ce que dit Juliette. C'est-à-dire, il n'est pas simplement question de mettre des pré-rolls ou de la pub ou de, effectivement, de demander à l'animateur de vanter les matelas, comme ça se faisait beaucoup dans les podcasts américains. Je ne sais pas pourquoi, c'était toujours des pubs pour matelas. Il est question, de, comme dans tout nouveau média, de créer une idéologie. Et le podcast implique... certains podcasts, on voit en tout cas qu'il émerge à l'intérieur du champ des nombreux et multiples et très variés podcasts, des formes qui requièrent d'ailleurs, qui obtiennent l'adhésion du public, hein, mais une certaine prime au jeu, à l'expression de soi, à l'expression d'un parcours personnel, à des enjeux politiques, mais vécus souvent plutôt sous l'angle d'une trajectoire personnelle et de la victimisation, etc. Enfin, il y a aussi des choses, une espèce de d'idéologie finalement du sonore qui se met en place, comme une autre a pu se mettre en place sur YouTube. Simplement, pour en finir avec la pub, il faut aussi quand même admettre qu'il y a d'autres possibilités pour les auteurs de podcasts que de se vendre à la pub et aux marques, de même qu'elles et ces possibilités existaient aussi pour les créateurs sonores avant. Je pense aux collectivités locales. Moi, j'ai été contacté par l'Office du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes qui veut faire un podcast. Donc, évidemment, Arte Radio ne fait pas ces choses-là. On ne fait pas les marques blanches, comme on dit. On ne fait pas de podcast à viser autre que créative. Et donc, j'ai adressé le plan à des gens que je connais, qui sont des créateurs sonores que Juliette connaît bien, qui sont Floriane Pochon et Clément Baudet, qui sont vraiment des créateurs sonores anti-publicité. Il se trouve qu'ils ont rapporté l'appel d'offres et ils ont fait un peu comme ils ont voulu, un podcast comme ils aiment, audio naturaliste, intelligent, très sonore. Et ils ont gagné de l'argent comme ça pour vanter la beauté de la région Auvergne. Alors évidemment qu'ils se sont mis au service d'une marque, entre guillemets, mais ils se sont fait plaisir. Je veux dire qu'il y a quelque chose dans le sonore de tellement curieux et qui pour le moment n'est tellement pas tout à fait maîtrisé, je dirais, par les marchands. Il y a encore, peut-être pour quelque temps, peut-être pas définitivement, mais cette idée que si on fait un podcast, il ne faut pas le faire n'importe comment, parce que les gens détestent la publicité sonore. Si on avait autant de publicité sonore dans le paysage qu'on a de publicité visuelle, les gens deviendraient fous et détruiraient les panneaux publicitaires, les haut-parleurs à coups de masse, et Juliette le sait très bien. Donc il y a quand même, c'est très très touchy le sonore, s'adresser aux oreilles des gens, c'est très difficile, et si on y va avec les gros sabots, voilà, donc... Il y a quelque chose quand même, il y a encore des espaces. Je sais qu'il y a des marques qui commandent vraiment des podcasts à des personnalités très inattendues, à des personnalités plutôt artistes, plutôt singulières, plutôt… Je sais que par exemple, Benjamin Habitant est censé écrire une fiction pour la RATP. Bon, si vous connaissez un peu ce que fait Benjamin Habitant sur France Culture ou sur Arte Radio, ce n'est pas vraiment le type à qui on pense a priori pour vendre sa Kaamelott. Et il y a aussi autre chose qui est en train de se mettre en place, mais là qui ne touche par contre que les quelques stars du podcast, c'est qu'en fait, pour avoir des revenus à partir du podcast, il faut faire autre chose. Et donc, toutes les grandes voix du podcast, et notamment des podcasts féministes, mais pas seulement, ont désormais un agent littéraire et signent des contrats pour des livres. Donc, il y a eu le livre « Des couilles sur la table » de Victoire Tuaillon, il y a le livre « De la poudre » de Lorraine Bastide. Prochainement, dans vos librairies, il y aura les livres de Charlotte Bien-Aimée. Mais il y en a d'autres moins connus. Nina Hallberg a pu faire un livre à partir de son podcast La Dernière Amazon. Élodie Font va sortir une bande dessinée d'après Coming In. Alors ça, c'est assez marrant. C'est juste que les éditeurs n'ont pas beaucoup d'idées. Ils voient qu'est-ce qui marche. Tiens, le podcast féministe, proposons-leur un contrat. Mais là aussi, il y a un débouché qui malheureusement va concerner que, disons, une douzaine de stars ou mini-stars du podcast. Mais il y a aussi... quand même, cette émergence d'auteurs de voix nouvelles, elle est réelle.
Mmh. Oui, oui. Mais tu sais que ce modèle de faire du son et de décliner sous forme de bouquins, Ça a été notamment fait, mais il y a beaucoup plus longtemps, quoi. Il y a pas 20 ans, mais 15 ans, on va dire, par John Lang, qui est l'auteur du Donjon de
Nahelbeuk. Et du Donjon de Nahelbeuk.
Voilà, qui est le Donjon de Nahelbeuk, c'est une parodie de saga moyenâgeuse. Et en fait,
d'heroic fantasy, ouais.
Voilà, c'est né au sein de la saga Sphère, qui est je ne l'ai pas cité dans le podcast indépendant tout à l'heure, mais ça en fait pleinement partie, ou en tout cas, c'est à côté. Ce sont des univers compagnons, on va dire. Et la saga Sphère, c'est tout un milieu assez foisonnant. Alors, au départ, d'ados, puis là, ils ont vieilli, donc ça, je pense au niveau des âges, ça se mélange peut-être un peu plus, qui ont décidé de faire de la fiction en autoproduisant complètement à partir du milieu des années 2000, par là, même début.
En 2000, c'est l'authentique.
Ouais, c'est ça, le donjon
de du podcast.
2000, ouais.
Et puis 2001, c'est lui.
Ouais, et puis 2001, il y en a eu une autre assez proche aussi. Il y a Richou aussi qui a fait des choses dans ce domaine-là. Et ensuite, c'est devenu, il en a fait des BD, il en a fait des concerts, des CD. Enfin, il a décliné sous tout un tas de trucs. Et maintenant, en fait, il vit assez largement en fait de cet univers qu'il a créé autour du donjon de Nahelbeuk. Mais bon, dans tous les gars qui ont fait de la saga Sphère, enfin qui ont fait partie de la saga Sphère, puisque c'est beaucoup des gars, c'est le seul à ma connaissance, quoi.
Oui, en effet, il y a une. Excusez-moi de vous couper, il y a une véritable starification des producteurs et des productrices, et comme vous l'avez dit, surtout des producteurs avec justement des figures qui deviennent leur propre marque et qui se déploient sur d'autres marchés, notamment celui du livre. Vous avez cité les livres de la poudre et des couilles sur la table. Mais justement, en fait, cette figure du podcasteur, du producteur de podcast, elle fonctionne très bien au niveau des ventes, on le voit. Et elle repose sur une stratégie qui consiste à créer de l'exclusivité avec l'auditeur et l'auditrice, de raconter une histoire intime dans le creux de l'oreille. Et du coup, c'est aussi ce rapport intime qui introduit une forte réceptivité de l'auditeur ou de l'auditrice, parfois même pour la publicité, vous l'aviez dit. Et on voulait justement, dans la suite de cette table ronde, questionner avec vous la place de l'intime dans ces podcasts, de ce rapport intime créé avec les auditeurs et auditrices, et vous poser la question suivante. D'après vous, Juliette Volclair et Sylvain Gire, ce format podcast permet-il une libération de l'intime et l'émergence de voix politiques dissidentes?
Sylvain, tu veux commencer? Comme ça, c'est moi qui vais réagir à ce que tu dis pour une fois.
Voilà, comme ça, ok. Écoute, c'est incontestable que le podcast a permis ça, cette émergence d'une voix intime. C'est incontestable aussi que ce qu'on appelle l'adresse à l'auditeur dans le podcast est différente, par exemple, de celle d'une radio associative dont on parlait. Une radio associative a souvent un ancrage assez local, régional, le podcast a priori très peu, mais je crois que ce qu'on sent, nous, dans l'écriture d'un podcast, ce qu'on sent quand des gens qui ont l'habitude, qui font depuis des années de la radio et de la radio associative, je pense à Elodie Font, qui a travaillé à Nova, enfin, pas vraiment associative, mais disons de la radio FM, au Move, il y a des gens qui ont fait des années de radio, et quand ils commencent à faire du podcast, ils se rendent compte que c'est pas pareil et que l'impact n'est pas le même. Très clairement, dans le podcast, on a l'impression de s'adresser à une personne à la fois. Et effectivement, le podcast s'inscrit dans une époque où l'individu, l'individualité, les émotions, l'intime règnent en maître. Donc ça, on le critique beaucoup pour cette raison, mais c'est quand même le podcast qui a permis l'émergence, notamment des paroles féministes, de la parole de minorités noires. On voit les podcasts plébiscités qui marchent le mieux sont des podcasts féministes, c'est pas des podcasts producteurs pour le coup, ce sont vraiment des productrices, c'est plutôt des voix féminines qui ont émergé, même si après on regarde les statistiques, il faut relativiser, comme toujours, ce qui cartonne vraiment, c'est encore d'autres choses que je connais pas, à vrai dire. Mais voilà, donc c'est incontestable que c'est ce lien, cette intimité et l'idée que l'intime est politique, que le corps est politique et que des récits féminins, des récits de personnes noires vont avoir un impact et vont permettre de réfléchir, non seulement existent, mais finalement font communauté. Donc je voudrais finir là-dessus pour reprendre l'exemple d'Élodie Font. Elle a travaillé plus de 10 ans au Move ou à Nova à faire des matinales et elle a fait un premier podcast sur Arte Radio qui s'appelle Coming In, où elle raconte comment finalement elle a accepté qu'elle était homosexuelle. Tout le monde le savait, sauf elle. Donc un podcast qui doit faire 35 minutes. Elle a reçu des milliers de mails. c'est-à-dire qu'Élodie Fonck, et là maintenant elle fait la BD. C'est quel que soit ce qu'elle fait dans sa vie, elle sera toujours associée à Coming In, qui a bouleversé des dizaines de milliers de gens et qui lui a valu, j'insiste, des milliers de mails. Elle m'a dit, mais en 10 ans du MOOV et de Nova, je n'ai pratiquement jamais reçu de courrier. Donc, il faut se méfier de cette tendance à dire la radio, c'est magnifique, c'est un média collectif et le podcast, c'est trop individualiste. Le podcast, malgré son adresse très personnelle et très intime, crée de la communauté, crée du débat public et réunit les bouches et les oreilles.
Alors oui, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, ça fait partie de la fausse opposition pour moi entre podcast et radio, de dire que le podcast serait de l'intime et la radio serait du collectif. Parce que la radio, justement, pour là par contre, je suis plus d'accord avec toi sur le fait que c'est le podcast qui a un peu amené cette question-là de l'adresse spécifique. Alain Weinstein, dès la fin du XXe siècle sur France Culture, il s'adressait de manière intime aux gens. Hein. Sa manière de faire de la radio la nuit, son adresse, les temps de silence qu'il y avait dans ses émissions, si c'est pas de l'intime, je sais pas très bien ce que c'est. Après, c'était très différent.
Il disait pas je, il disait peut-être moins je.
Ouais, après, Macha, elle parlait de son chien hein, à l'antenne. Donc, en fait, ça dépend aussi, tu vois, ça dépend de quel type d'émission tu fais. Ça dépend de si c'est une radio, justement, là, pour la prochaine radio renversée, on travaille sur la nuit, en fait, et notamment sur la radio de nuit. La disparition de la radio de nuit, c'est la disparition, justement, d'un espace dans lequel il y avait un autre type d'adresse à l'auditrice, à l'auditeur. En dialoguant avec Marine Beccarelli, qui est spécialiste de cette question, j'ai dit par boutade, il faudrait inventer le podcast de nuit, parce que finalement, c'est pas du tout la même adresse qu'il y a dans la manière de produire, et puis de s'adresser, et d'autre côté du poste ou de l'enceinte, d'écouter la nuit ou le jour. Après, sur la question de l'intime de manière plus générale, pour moi, c'est un peu une tarte à la crème, en fait, cette question de l'intime, tout comme celle de l'immersion, d'ailleurs. C'est-à-dire, à force d'entendre ce même discours qui revient 50 000 fois systématiquement, je finis par me méfier, en fait. Et pour moi, l'intimité, elle n'est pas forcément propre. Par exemple, sur un podcast qui est fait entre potes, pour discuter des sorties cinéma, pour discuter de jeux vidéo, pour discuter d'autres choses, il n'y a pas forcément d'intimité, et tant mieux, parce que ce n'est pas ça qu'on attend. En revanche, il y a un format extrêmement dominant qui s'est imposé à partir de 2015, qui est celui du storytelling, de l'histoire personnelle, et qui est devenu un format très, très, très présent dans l'ensemble des podcasts. Mais il y a d'autres manières. C'est pas parce que c'est un format dominant que c'est le seul format possible. En fait, c'est juste qu'actuellement, c'est celui-là qui gagne la mise. Et je pense que ça va passer à un moment donné. J'espère pas trop tardivement, parce qu'il y a des belles choses qui sont faites avec ce truc de l'intime. Il y a aussi beaucoup de soupe qui est franchement assez, enfin, que je n'écoute plus d'ailleurs. Mais voilà. Après, je voulais aussi revenir sur cet aspect, les podcasts féministes et les podcasts de personnes racisées. Ils ont beaucoup de succès aujourd'hui. Après, je ne pense pas, contrairement à ce que tu as dit, Sylvain, que ce soit lié au podcast. Je pense que c'est lié à un phénomène social beaucoup plus général, où à travers les réseaux sociaux, à travers plein de choses, il y a eu une émergence extraordinaire de tout ça. Il y a des émissions, en revanche, il y a des émissions féministes qui existent depuis le début des radios libres, en fait. Et pareil, les émissions des différentes communautés immigrées en France, elles représentent, sur les grosses radios associatives, elles représentent un tiers du temps d'antenne en général. Après, c'est souvent, par exemple, une émission de la communauté sénégalaise de la région parisienne, par exemple, qui va parler à la communauté sénégalaise. C'est différent de ce que font Rokhaya Diallo et Grace Lee. C'est pas pareil dans l'adresse, c'est pas pareil dans la manière de se situer politiquement. Ceci étant, il y a cette parole-là qui est présente depuis longtemps. Pour les féministes, je voudrais citer notamment la nébuleuse Radio Rageuse, qui réunit des émissions féministes qui sont faites sur des radios associatives depuis, depuis belle lurette. Mais le réseau Radio Rageuse, lui, s'est fondé, enfin, c'est pas un réseau, c'est une nébuleuse, s'est fondé en 2009-2010, je crois, dans ces eaux-là, et réunit des meufs, des trans, qui font des, voilà, des, qui mettent en commun leurs outils, qui font régulièrement des rencontres pour partager leur savoir-faire, etc., et qui se situent pas, d'ailleurs, je pense que c'est important de le dire aussi, qui se situent pas dans une opposition aux meufs et aux trans qui font du podcast, mais qui, au contraire, en fait, ça participe de quelque chose, voilà, c'est, y a plein d'espaces différents à travers lesquels ça émerge.
Oui, donc en parlant de l'utilisation du storytelling tant à la radio que dans les podcasts pour proposer des contenus féministes ou pour lutter contre le racisme, pour vraiment avoir ce discours politique par le biais de l'utilisation du jeu intime, on voudrait vous proposer donc en écho à cela un extrait des Gardiens de la Paix diffusé sur Arte Radio et on vous laisse réagir. Tous les deux, juste après ça.
Le problème, c'est que de la part d'une fille de prof, à la limite, je comprends. Pour moi, c'était logique. Mais son père est CRS, putain.
Après, tant pis, hein. De toute façon, les gonzesses ne veulent pas de mec bien, donc tant pis. Elles prennent le dalle nègre qui les saute et puis qui les lâche après, une fois qu'il a trouvé mieux. Tant pis pour elles, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a 140 féminicides. Tant pis, les gars. Tant pis.
J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà. En fait, donc c'est... Je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Voilà. Quand des gonzesses offrent à des nègres ou à des pougnoules, je m'en bats les couilles si après elles se font démonter la gueule. Buter, tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, maintenant faut que tu payes la redevance.
Je pensais que j'allais devenir fou sur le coup. J'avais l'impression de m'entendre humainement avec ses collègues. Hein. Bon, on n'était pas d'accord sur tout, mais de voir qu'on pouvait tenir des propos sur moi, alors que j'effectue la même fonction qu'eux tous les jours, que ces personnes-là, je les côtoie depuis... une dizaine d'années, c'est inimaginable. Ça m'a choqué, ça m'a retourné le bide. Mais ce que chacun oublie, c'est qu'à ce moment-là, on est armé. Je suis policier avec une arme dans mon étui. Et si j'étais pas stable, hein, j'aurais pu être amené à... Mais bon, non. C'est vraiment dur à raconter. Hein. Ça vous remet à votre place. Voilà. Et ça vous rappelle que vous devez encore vous protéger et ne pas péter un plomb. Parce que si vous pétez un câble, c'est contre vous que tout peut se retourner. Donc on pense aux solutions directes. Voilà. Il faut que je puisse m'exprimer. Il faut que je prenne des preuves, voilà, palpables. Sans ça, on ne me croira jamais. J'ai décidé de remonter les conversations pour voir pourquoi il parlait de moi ainsi.
Donc on a entendu un contenu extrêmement dur, difficile à entendre, avec des propos extrêmement violents. Et le récit qui s'ensuit de justement l'insistance sur c'est difficile à raconter, et pourtant voilà, c'est des preuves qui sont nécessaires pour dénoncer justement cette violence extrême. Est-ce que, enfin justement, qu'est-ce que, enfin, si vous souhaitez réagir sur cet usage du jeu et du storytelling qui est extrêmement politique et qui permet de justement dire des choses qui sont extrêmement dures à dire et à écouter. Est-ce que le podcast et la radio sont des formats qui permettent cette libération d'une parole extrêmement compliquée ?
Alors, attends, là, c'est quand même un exemple très, très particulier hein, qu'il faut expliciter. Donc, on entend à la fin Alex, un policier noir de Rouen, qui mène ce documentaire qui est signé par Ilham Mahad. Et ce qu'on entend au début, c'est ce que Alex a récupéré et a confié à Ilham. Ce sont des extraits d'un groupe WhatsApp d'échange audio de ses collègues policiers. Donc les propos racistes et sexistes sont ceux des policiers qui se parlent sur un groupe audio WhatsApp. Et ensuite, c'est Alex qui commente. Donc C'est pas tout à fait la même question. Ce que ça dit, moi, ce qui m'importe dans ce documentaire, pourquoi on l'a produit, pourquoi on l'a diffusé, c'est d'abord, il apporte des révélations tout simplement extrêmement fortes, parce que qu'il y ait du racisme dans la police, certes, on le sait, et on s'en doute, mais là, on est au-delà du racisme, on est sur des gens qui assument une adoration pour le Troisième Reich, et qui sont des suprémacistes blancs, et qui disent à un autre moment du documentaire qu'ils sont en train de s'armer en vue de la guerre civile. Donc, on est quand même là dans une dimension qui dépasse, si on va dire, le racisme de base de commissariat ou de fourgon de police. Et c'est pour ça que ce documentaire a eu un tel impact. Donc, il a sa part de révélation et d'alerte. Et puis, on n'a pas fait les choses n'importe comment, c'est Alex qui introduit le documentaire très longuement, c'est lui qui le conclut. C'est aussi son histoire. Maintenant, est-ce que c'est sur cette forme de storytelling et de politique, on nous a beaucoup, c'est un reproche qui revient souvent en fait, que le storytelling ne serait pas, il nous détournerait, n'est-ce pas, des grandes causes collectives. Je crois que ce qui nous a, si on est engagé politiquement ou moralement ou humainement, si on pense que la société mérite d'être changée, c'est grâce à des storytelling, c'est parce qu'un jour quelqu'un nous a raconté, parce qu'on a lu un livre écrit par un ouvrier, ou parce qu'on a lu George Orwell qui va partager leurs conditions, ou parce qu'on a lu Jack London, parce qu'il y a eu des récits de femmes immigrées, d'immigrés magnifiques, il a fallu attendre Mémoire d'immigrés, mais enfin, il y en avait d'autres avant, mais tout d'un coup, des gens ont dit « je » pour raconter leur histoire, et quand on est sincère et qu'on raconte bien son histoire, on parle aussi pour les autres et pour tout le monde. Et il est quand même plus facile, plus agréable, plus émouvant d'écouter un récit incarné que de lire, on va dire, un traité sociologique qui finalement va nous dire la même chose, mais d'une façon qui peut-être est moins accessible, moins agréable. Il y a aussi une fonction de la radio, on ne prétend pas toujours faire de l'art, d'informer, d'émouvoir, de divertir, pourquoi pas, mais d'apporter d'autres sons, d'autres voix. Dans ce cas-là, avec cette parole d'un policier heurté, traumatisé, en découvrant le racisme épouvantable de ses collègues, il y a aussi la force, tout simplement, encore une fois, de la voix et de l'écoute. C'est-à-dire que si vous prenez la version de Mediapart de cette enquête qui est écrite et la version Arte Radio, je trouve que la version d'Arte Radio est 10 fois plus forte parce qu'on les entend. Et donc, on entend, outre les propos racistes, on entend la frustration sexuelle, on entend mais on entend aussi une revendication assumée de théories épouvantables, je pense que ce jeu, quand il est sincère, tous les jeux ne se valent pas, tous les jeux ne sont pas intéressants, il n'y a pas une prime nécessairement, c'est pas parce qu'on dit jeu qu'on dit quelque chose de formidable, mais moi ce qui m'a beaucoup influencé, je le répète toujours, c'est aussi la bande dessinée autobiographique, c'est aussi d'autres œuvres littéraires, et je trouve que c'est intéressant que la radio, que le sonore à son tour ait pu dire à des gens, ton sujet, en fait, le sujet de ton podcast, c'est aussi toi, c'est aussi ton rapport aux politiques, ton rapport à la discrimination, ton rapport au désir. Et là, on se rend compte qu'on a quand même des œuvres très fortes qui sont nées ces dernières années grâce à ce jeu, donc qui n'est pas à dédaigner.
Mais je pense qu'il y a... Il y a aussi là-dedans, enfin la part, même si moi encore une fois le fait que ce soit un format quasi unique en ce moment me pèse, en ce moment, je parle depuis 2015, me pèse énormément. Là où ça a son importance à mes oreilles, c'est, et politiquement plus généralement, c'est que en fait chacune et chacun se sent obligé dorénavant de se situer en fait en tant que productrice, producteur de son, c'est-à-dire c'est un peu l'enterrement, enfin, de cette idée de la neutralité du journalisme ou de la neutralité de l'auteur, l'autrice.
Absolument.
Et ça, c'est vraiment essentiel, en fait, de dire, on va pas parler de la même manière. Si on est une femme blanche riche, que si on est une femme asiatique handicapée pauvre. C'est certain qu'on ne parle pas depuis la même position dans la société et qu'on ne peut pas s'adresser de la même manière, d'une sorte de jeu neutre. Ça, c'est très bien. Après, je suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que le récit est forcément mieux lorsqu'il est incarné. Et je citerai justement, je vais citer deux exemples qui sont des exemples littéraires. Et c'est pas anodin parce que je pense que précisément, il y a eu 1000 exemples hein, dans la création radiophonique et sonore du XXe siècle ou du début du XXIe, mais pour ce qui est d'aujourd'hui, les deux exemples qui me viennent à l'esprit sont des exemples littéraires. Je pense au bouquin d'Annette Singh, Le champignon de la fin du monde, et je pense à l'ouvrage très récent d'Amitav Ghosh, Le grand dérangement. Ces deux bouquins, en fait, disent... On va tisser d'autres récits. Alors, les deux sont liés à l'écologie, pour le coup, mais il y en a dans d'autres domaines. Et en fait, les personnages principaux ne sont pas du tout des humains. Le personnage principal du bouquin d'Annette Singh, c'est un champignon, le Matsutake. Si on peut parler en termes de personnage principal, parce que justement, elle défait le récit romanesque. Elle fait un essai qui a une forme très, très originale. Et pareil, Amitav Ghosh, son bouquin, Les grands dérangements, l'idée c'est de dire la littérature aujourd'hui est incapable de parler du réchauffement climatique pour la bonne raison qu'elle est restée sur le modèle de il y a un héros, on va parler de ses problèmes sentimentaux et ça reste centré là-dessus. Et en fait, lui, il refuse cette position du héros forcément humain, héros ou anti-héros, hein, peu importe. Mais justement, il faut, pour moi, cette prépondérance, non seulement du récit autobiographique dans les podcasts, mais au-delà juste de ça, cette prépondérance simplement de la voix, c'est quelque chose qui relève de l'anthropocentrisme. Et je pense qu'il faut réussir à aller ailleurs. Ça ne veut pas dire aller mettre le micro devant la gueule de son chien pour réussir à se décentrer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ouvrir les oreilles encore un peu mieux que ça. Et se réouvrir, parce que bon, il y a des personnes d'ailleurs qui le font toujours, mais il y a eu une autre ouverture aux autres sons du monde que la simple voix. La voix, c'est quand même une partie extrêmement restreinte du monde en tant qu'existant globalement. Et je trouve ça dommage qu'on l'entende principalement elle. Et pour prendre un exemple sur Arte Radio, justement, ce que fait Félix Blum, notamment. Alors lui, par contre, quand il va mettre un micro devant la gueule de chien ou des micros binauraux à leurs oreilles, ça donne quelque chose de vraiment magnifique. Voilà. Félix Blum, il arrive justement à complètement nous sortir en fait de notre humanité, et je pense que cette question-là de non seulement réussir à se situer au sein des questions de la classe, de la race, l'ensemble de nos positions dans la société, mais aussi réussir à se situer en tant qu'être humain. Et ce truc-là, pour l'instant, alors c'est pas propre au podcast, mais c'est lui qui promeut le plus cette forme-là, mais dans la radio, on entend aussi en partie ça. La centralité sur le jeu, pour moi, ça reste bloqué à un stade où on ne peut même pas en fait, se situer en tant qu'être humain et du coup s'ouvrir à tout le reste.
Oui, et justement, vous nous avez, Juliette Volclair, proposé un extrait de podcast qui mêle poésie et son de la nature, vraiment dans une démarche créative. Et on n'a pas le temps, malheureusement, d'écouter cet extrait, parce qu'il nous ne reste que 5 minutes, mais on voudrait justement finir sur cette thématique de la création sonore, sur l'expérimentation que permet le format podcast. Et donc, cette dernière question vous est particulièrement adressée, Juliette Volclair, car... il y a une rubrique son inouï sur Saint-Aune et on voulait vous demander si justement les podcasts ont tant de succès parce qu'ils permettent de trouver plus de sons inouïs que sur les grandes chaînes de radio, qu'elles soient publiques ou privées.
Oui, alors je vais juste citer justement la création que vous avez évoquée, le podcast, et ce sont les éditions Héros Limite qui ont décidé de créer un cinéma pour les oreilles et du coup mettent certains de leurs textes en son, et c'est admirablement fait, notamment avec Clara Allo, hein, mais je pense que c'est pas la seule en fait à faire ça, donc c'est que en podcast, mais je pense que les radios associatives qui nous écoutent devraient en diffuser, c'est vraiment des petites merveilles de pièces, donc sur le site des éditions Héros-Limite, je sais plus quelle est la fin. Alors, est-ce que les podcasts donnent à entendre plus de sons inouïs ? En termes de rapport au sonore, comme je viens de le dire, non, à mon sens. Mais ce n'est pas forcément beaucoup plus riche en radio, à vrai dire. C'est-à-dire, il faut vraiment aller chercher les quelques personnes qui s'intéressent au sonore autre que simplement la voix humaine. Après, là où il y a de... je pense que les radios, si le podcast aussi a eu une telle, s'il y a un tel engouement autour du podcast, et si c'est nécessaire, et si par exemple Rokhaya Diallo et Grace Lee sont dans un grand studio de podcast et pas sur France Inter, je pense que c'est parce qu'il y a eu un énorme échec déjà de la radio publique à savoir s'ouvrir à ces voix-là. En fait, pour moi, elle devrait clairement être diffusée au niveau national, par des chaînes de services publics, si le service public était ce qu'il était. Mais malheureusement, elles sont dans un studio de podcast privé où elles font néanmoins un énorme boulot et un boulot extrêmement important. Mais pour moi, ça signe l'échec du service public qui n'a pas su accueillir ces voix-là. Les radios associatives, je pense, qui pour moi sont du service public local, ont un rôle à jouer. Après, elles ont été, on leur écrase la tête en fait depuis tellement d'années que c'est très difficile pour elles de se maintenir à flot. Certaines y arrivent néanmoins. Je pense qu'une partie d'entre elles ont mis beaucoup trop de temps à se rendre compte de l'existence d'Internet. C'est une bataille que moi j'avais menée au sein des radios associatives, enfin en tout cas dans celle où j'étais, pour dire mais attention. C'est bien de mettre les sons en podcast, les archives en podcast. On a maintenant cette nouvelle possibilité. Faisons-le, quoi. Mais les radios sont restées arrimées pendant très, très longtemps à exclusivement de l'AFM. Alors que pour moi, la question n'est pas le mode de diffusion en réalité. On peut faire plein de choses. Plus on diffuse de manière différente, mieux ça va être. Après, je pense que la création, en fait, peut émerger depuis l'ensemble de ces espaces. La création, elle reste de toute façon très précarisée, enfin très difficile à mener, parce que c'est du temps long. Et aujourd'hui, le temps long, aussi bien dans la radio publique que dans les gros studios de podcast privés, n'existe pas. Le temps de recherche, le temps de fabrication, le temps d'écoute, etc., tout ça a complètement disparu, en fait, de la fabrication. C'est pris en compte par Arte Radio, c'est pris en compte par d'autres, mais c'est très rarement... Arte Radio, c'est payé, mais je veux dire, c'est très rarement payé ailleurs. Souvent, c'est du bénévolat. Et après, pour moi, c'est pas une question de support, quoi. On peut monter un podcast extrêmement... étonnant, un podcast indépendant et hop, on le fait sans demander la permission à personne, on crée son propre site internet, tout comme on a des liens avec déjà une radio associative, donc on n'a pas tout un tas de barrières à franchir pour pouvoir diffuser une émission sur une radio associative, et là il y a des choses super qui peuvent émerger. Je pense notamment à l'émission Bras Zéro sur Canal Sud, qui est une émission qui est de critique sociale au départ et qui s'est aussi ouverte à la création sonore énormément et qui fonctionne un peu comme un atelier ouvert, un peu comme faisait Méga Combi à l'époque sur Radio Canu, mais sauf que Bras Zéro, c'est un atelier ouvert vraiment permanent sur des thèmes très variés. Et voilà, il y a des super choses qui naissent à partir de là.
Merci beaucoup pour tous ces exemples et votre posture critique qui est aussi liée à votre rôle éditorial que vous partagez avec Sylvain Gire. Je suis désolée de vous couper, mais le temps file et il est déjà 11h. On vous remercie énormément, Sylvain Gire et Juliette Vauclair, pour cette heure passée en votre compagnie à l'occasion donc, de cette nouvelle édition de la JDR et de sa première table ronde. Merci pour vos réponses pertinentes et très enrichissantes.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous deux. Et vive la radio.
Vive la radio. L'FM la plus musicale le matin.
Transistor.
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 La journée de la radio fait son grand retour sur Transistor.
Transistor.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor, en direct toute la journée.
Vous appelez et vous raflez toutes les 10 minutes le double album de Serge Gainsbourg.
Que vous soyez partisan des ondes.
Est-ce que vous sentez les ondes?
Partisan du podcast.
Elles sont là, elles sont partout.
Oh non, pas ça.
Oh, elles sont dans les campagnes, dans les villes, elles sont sur les réseaux sociaux.
Quelle humidité.
Des tables rondes, des créations, des fictions. C'est dans ton poste toute la journée sur Transistor.
C'est la meilleure émission que j'ai jamais faite.
Les deux là au fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Alors je reprends.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les...
Transistor.
T'es plutôt FM ou podcast?
Oh, ça dépend des jours.
Eh bien, podcasté maintenant.
Pas mal, non? C'est
Transistor.
Et vous écoutez bien le Stator 19h sur Transistor. Nous sommes le 13 avril et c'est la journée de la radio.
À part ton émission que j'ai pas vue d'ailleurs. Hein, t'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi?
Transistor.
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 On a besoin de libérer un peu
la radio
pour que le podcast fonctionne. Et c'est pas de l'idéologie.
Ce truc fasciste me donne envie de vomir.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor.
Des tables rondes, des créations, des fictions. C'est dans ton poste toute la journée sur Transistor.
Il est 11h, pardonnez-moi, sur Transistor pour la 9e journée de la radio. Et tout de suite après donc cette première table ronde de la journée, on va partir pour l'émission musico-centrée de Clara. C'est parti.